On a des grandes prairies, des prairies sur tourbe en fait. Hein. Donc les tourbières, c'est des milieux naturels exceptionnels.
CO2, mon amour.
On a 10 mètres de tourbe, donc une des plus grandes tourbières de France en fait. Par-dessus ça, ces prairies sont fleuries de façon très subtile. Tu vois, au printemps, beaucoup de jaune, beaucoup de violet, des insectes partout.
Avec Denis Chessou.
Et juste derrière, tu vois, on a ces forêts d'aulnes, qui racontent un peu l'histoire du marais. Parce que ces forêts-là, elles se sont installées quand les hommes ont délaissé le marais, finalement, après la guerre, quoi. Hein. Et on a le Grand Colombier. Et le Grand Colombier, il culmine quand même à 1535 mètres. Et si tu veux, c'est ce qui fait le côté très saisissant du paysage. C'est que ici, dans le marais, on est très bas. On est à 200 mètres seulement.
Sur France Inter.
On retrouvera Laura Desmousselles d'ici quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir, c'est CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature et cette nature qui chuchote à vos oreilles. Mathias Saléon nous accompagne à la technique et notre collaboratrice c'est Camille Blanès et Xavier Pessugia réalise l'émission. Alors figurez-vous que c'est la fête de la nature. Dans CO2 mon amour, c'est toutes les semaines. Et ça fera 30 ans en septembre prochain. Et accentué d'ailleurs depuis 3 ans en format 100% reportage le dimanche sur le dos d'une cigogne ou bien un loup patte dans la main pour se promener. 2000 manifestations avec l'Office français de la biodiversité. Fête de la nature. Mais alors la nouveauté en plein mois d'août cette année. Eh ben ouais, les seins de glace ont fondu. Ils sont allés vite fait se rhabiller. À Paris, vous pourrez saluer la vingtaine d'arbres centenaires du Champ de Mars que la mairie a failli tronçonner. Mais avant tout, la nature, ce sont des herbes folles, des jeunes pousses, des vieilles branches, des lacs ou des mares, dunes, montagnes, océans, glaciers, forêts, tous unis par l'eau dont on dépend. Donc c'est la fête de la nature et aussi celle du vivant. Pour les bouquetins du massif du Bargis, donc en Haute-Savoie, petite victoire, hein, parce que pas mal d'entre eux peuvent retirer leur gilet pare-balles. Merci à la mobilisation. Ne seront mis hors circuit que ceux réellement infectés par la brucellose. On va donc enfin, dans la nuance, mais si, comme le font les Suisses depuis longtemps dans la même situation, et donc on va éviter, méthode française, de tirer dans le tas. C'est donc la fête pour les bouquetins. Tout le monde aime la nature, ou presque, avec ce qu'elle nous a toujours donné, cette générosité sans frontières que nous savons si bien piller sans retenue. On regarde l'incroyable invention du vivant, la fécondité des sols, la puissance contenue dans une simple graine et tous les paysages de rêve. Alors on va boire du vin bio et autres décoctions de valériane à sa santé. Il fera bon se rendre utile, de participer à l'effort solidaire en essayant d'améliorer les choses, ramassage de déchets, souvent des autres, plantation de haies qu'on a toujours plus ou moins le droit de faire sauter. Eh ouais, la nature, c'est un outil hein, qui doit rapporter, nous nourrir et accessoirement exister pour elle-même. Filles et gars danseront une carmagnole biosourcée et les enfants joyeux entre deux écrans tresseront dans les cheveux des couronnes de fleurs sauvages en faisant attention sur le chemin à ne pas se faire taper par le gros tacteur du voisin qui travaille, lui, qui fait les foins avant l'orage et fait aussi la nature, mais avec ses pulvérisateurs. Ouais, c'est la saison des cocktails létaux, donc la fin des coquelicots, des bleuets et autres adventices nuisibles qui gâchent la belle harmonie des vastes hectares monochromes chimisés jusqu'au trognon. Bon, avec le nouveau ministre de l'Agriculture, biberonné au plateau de la Beauce et à la Chambre d'Agriculture, normalement, glyphosate et pesticides seront bien gardés. Mais, nous ne demandons qu'à être surpris par ces 5 ans d'écologie de folie qu'on nous promet, de disruption qui nous attendent, en souhaitant d'ailleurs le meilleur à nos deux femmes ministres, à la sensibilité industrielle, économico et accessoirement écologique affirmée. Nos excès se calmeront, ouais, vont se calmer par les prix, par une vraie diminution de nos 700 km² bétonnés, asphaltés tous les ans, et ça ne diminue pas, par le chalutage mondial excessif, et puis surtout par le changement de pensée. Alors oui, à la fête de la nature, mais pas 5 jours par an. Sinon, les papillons, on les fera en papier pour décorer l'estrade, et les moustiques tigres pourront se déchaîner, car ils ont peu à craindre des gobe-mouches, des hirondelles qui chaque année reviennent un peu moins nombreux. Il fait trop chaud, on le sait, on le voit, mais tant que de l'eau il y a, la nisette en servira, et l'amour de la nature on fêtera. Ah, il fait toujours bon d'être ensemble, toujours, mais évitons à notre nature mère de lui faire sa fête. Dans notre paysage, donc, vous l'avez compris, l'Ain, le département, et un marais donc pour les enfants, un marais pour les enfants, le vivant et les autres, le marais de Lavour pour fêter la nature. Mais sur quoi vous trémoussiez-vous avec autant d'ardeur? Bah, c'était Franz Ferdinand sur France Inter dans CO2 Mon Amour. Allez, où partons-nous?
Le Marais de Lavour, il faut déjà s'imaginer en fait qu'il est environné de montagnes tout autour. En face de nous, on a le massif du Grand Colombier qui culmine quand même à 1500 mètres. À l'est, eh bien, c'est le massif, ce sont les Préalpes avec les Bauges pas loin à plus de 1000 mètres. Tout ça, ça fait un écrin avec au milieu, là où nous sommes, le Marais de Lavour qui n'est qu'à 230 mètres d'altitude. Et c'est ce qui fait aussi que le paysage est très beau ici. Hein. C'est ce contraste entre la montagne et le marais plat où on est. Donc on est juste à côté du Rhône et donc pour des oiseaux migrateurs qui passent là, vu d'en haut, ils doivent voir cette zone avec des roseaux, des grandes prairies. Pour eux, ça doit être très attractif.
Direction le département de l'Ain, entre Lyon et le Dauphiné, avec quatre, on va dire, personnalités fortes. Vous avez la Bresse, la Dombes, le Pays de Gex, qui lorgne vers la Suisse, et le Bugey. Et là, on en a déjà parlé, avec les épaules larges du Grand Colombier, nous sommes au nord-ouest du lac du Bourget. Culoz est à côté, hein. Vous avez les communes donc de Lavour, mais aussi de Césérieux, Talissieux, Béon. On est dans la partie sud du département, dans la communauté de communes du Bugey Sud. Et donc là, on est dans cette belle zone humide assez exceptionnel. Bon, dans l'Ain, ils ont une star, c'est la Dombes, pays des temps, mais justement, éclairage peut-être sur ce marais un petit peu moins connu. On lutte là-bas contre l'assèchement qui est lié en partie à la rectification déjà ancienne du cours du Rhône. On fait attention avec quand il y a trop d'arbres, quand il n'y en a pas assez. Bref, on a joué sur les équilibres naturels et humains selon les périodes de l'histoire. Alors, comment s'est fabriqué ce marais? Fabrice Darino est avec nous, moi je suis plutôt avec lui, et c'est le conservateur de cette réserve nationale du Marais de Lavour.
Il y a environ 10 000 ans. Et là, les derniers glaciers ont déjà fondu. Hein, ils ont laissé derrière eux des lacs immenses. Ici, le lac englobait le lac Léman, le lac du Bourget. Ouais. C'était une véritable mer intérieure qui recouvrait tout. Et ce lac s'est vidé, hein, parce qu'en fait, il y avait un verrou glaciaire un petit peu plus loin qui a sauté. Ça a pris des milliers d'années quand même. Et une fois que le lac s'est vidé, bah, qu'est-ce qui restait? Une espèce de marécage déjà, hein, une terre très très humide, très mouillée, dans laquelle le Rhône a commencé à faire son lit, à traverser. D'accord. Et à séparer donc les marais de Chautagne côté Savoie, ouais. Et puis les marais...
Côté de l'Ain, ici.
Oui, et ici, c'est le marais de Lavour. Et la tourbe s'est accumulée, petit à petit, les débris de végétaux se sont accumulés, hein, sur 10 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, la tourbe mesure 10 mètres d'épaisseur.
Oui, on va juste rappeler que pour faire quoi, 1 mètre de tourbe, il faut 1000 ans à peu près.
C'est ça, exactement, 1000 ans, oui.
Alors là, on quitte les feuillus, on quitte les arbres. On a le Grand Colombier, qui est la montagne tutélaire sous les yeux. Et là, on arrive effectivement sur une zone complètement herbacée. Mais en fait, il n'y a pas si longtemps, peut-être même de mémoire d'homme, c'était une grande plaine, quoi. Il n'y avait pas d'arbres ici.
Eh oui, c'est vrai. Il y a seulement 60 ans, même à peine, eh bien, le Marais de Lavour, qui fait 2000 hectares, c'est quand même une très très grande zone humide.
Ah, oui, oui.
Le Marais de Lavour, c'était un grand pré, en fait. Hein. Il n'y avait pas d'arbres. Et donc, il était fauché, il était pâturé. Hein. C'était vraiment une ressource pour les gens qui vivaient là. Ouais. Et aujourd'hui, le paysage a quand même bien changé, puisque en face de nous, ben, on voit des arbres, hein, qui bougent un petit peu le paysage. Et c'est tout le travail de la réserve naturelle, justement, d'entretenir ces prairies. Ouais, ouais. Hein. Donc là, on a quand même une vue assez lointaine. Hein. Là, c'est pas mal.
On va juste rappeler que les gens étaient vraiment en véritable autarcie ici, parce que la terre était quand même pas si mauvaise que ça. Donc, il y avait aussi bien des chevaux. Il faut imaginer des vaches que les gens les gardaient. On faisait attention aux trous d'eau, hein, parce que c'était aussi extrêmement dangereux, cette affaire-là. Mais on pouvait se nourrir, quoi. On pouvait tout trouver pratiquement dans le marais.
Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, il y avait le marais, hein, pour le foin, la blache. Ici, ça s'appelle la blache.
Alors, la blache, c'est le foin du marais.
C'est ça. Ouais. C'est une herbe un peu grossière, hein, quand on est au milieu du marais, une herbe composée de graminées, de parfois un petit peu raide. Donc ça, c'était le fond du marais, le fond de la plaine. Et puis, sur les coteaux, hein, on voit là, c'est plus de la polyculture. Et il reste encore beaucoup de vignes. Hein. Le vignoble du Bugey est réputé.
Alors cette blache, en fait, ça servait à la fois pour les litières des animaux, ça servait à employer les chaises. Hein.
Oui, tout ça c'est vrai. Et puis, il y a une histoire un petit peu bizarre. Hein. La blache est très liée, en fait, à la culture de la vigne et à la crise du phylloxéra. Ah, hein, oui. Bizarrement, parce qu'autrefois, donc ça jusqu'en 1876, c'est-à-dire l'arrivée du phylloxéra dans le vignoble du Bugey, Jusqu'en 1876, les gens utilisaient le foin du marais, la blache, pour pailler les vignes.
D'accord.
Et il y avait près de 1500 hectares de vignobles autour du marais. Donc il y avait un besoin en blache vraiment très important. Crac, le phylloxéra arrive, ouais. Le vignoble est par terre. Et les gens, d'un coup, ont moins besoin de blache. Et ça a été le début, un petit peu, du déclin de l'utilisation du marais, et un petit peu le début de l'embroussaillement du marais.
On va parler quand même aussi des moines, hein. On les imagine au XIIe siècle. Eux, ils arrivent, et puis donc, ils mettent le pastoralisme à l'honneur.
Ah oui, alors les moines cisterciens de l'abbaye de Haute-Combe...
Genre juste derrière, ils sont sur le lac du Bourget. Quoi.
Voilà, en 1130, hein, construisent la grange de Lavour, qui est un bâtiment monumental, hein, encore aujourd'hui. Hein, c'est un bâtiment énorme, qui est en très bon état. C'était pour une bergerie pour les moutons. Hein, à l'époque, c'était un pâturage surtout avec des moutons. Donc il y avait des conflits, hein, d'ailleurs, entre les moines cisterciens de Haute-Combe et les chartreux d'Arvières, hein, qui est un petit peu plus en montagne. Là, et ils se partageaient le marais, tous les deux.
Qu'est-ce que c'est ?
Une tanche. On a plein dans les tanches.
T'as entendu ? C'est quoi, ça ?
Une carpe qui vient de sauter.
Quand même un bel endroit, le marais. Je comprends pourquoi tu y restes, tu sais. Faudra que tu m'expliques, parce que moi... La liberté. La liberté.
Alors Christophe Bouvier, vous connaissez bien cette zone. On est à l'exacte césure des Alpes et du Jura. Et donc ça veut dire que pour un oiseau migrateur, c'est génial. Il voit ça, il se dit c'est humide, je vais avoir de quoi boulotter. Et donc c'est un lieu qui est parfait.
Oui absolument, on est vraiment ici là en bordure de la vallée du Rhône. Et si vous voulez, on est sur une zone de refuge pour beaucoup d'oiseaux migrateurs qui, en fait, ne retrouvent sur leur parcours plus trop de ces zones humides.
Attendez, là, qu'est-ce qu'on voit, Christophe Bouvier ? Là, il y a quand même des choses assez... on a une bécassine du marais, voilà.
Oui, voilà.
Ça veut dire que c'est un classique. Hein,
oui,
qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ah, alors, vous voyez ici une rousserolée farvate, hein, c'est aussi un passereau très commun.
Vous l'avez dit très vite, mais vous avez dit presque aussi vite qu'elle est passée, la rousserolle
voilà,
et farfate.
La rousserolle et farvate.
Et farvate.
Absolument.
Voilà,
voilà, donc on a beaucoup de petits passereaux qui sont typiques de ces zones humides, ouais. Des roselières, des prairies humides.
Alors, il y a ceux aussi que l'on connaît dans toutes les zones humides, mais qui sont quand même pas forcément très en forme. Il y a ce qu'on appelle le buteur étoilé et puis le blongiose nain.
Oui, tout à fait. Donc ça, ce sont déjà des espèces un petit peu plus grandes et effectivement plus rares. Donc qui fréquentent les bordures d'étangs essentiellement. On a quelques étangs dans le marais. Donc effectivement, le buteur étoilé est en forte régression dans toute la France.
Ouais.
On a des contacts régulièrement dans le marais de Lavour, donc c'est une zone importante pour le buteur étoilé. Et pour le blongiose nain également, hein, c'est occasionnellement on le rencontre dans le marais de Lavour.
Fabrice Zarino, oula, j'ai de très longs poils, je suis une très belle vache avec de belles cornes. Bon, c'est un peu exotique, elle parle écossais celle-là ?
Oui, celle-là, elle parle très bien écossais, c'est une vache Highland Cattle qu'on a maintenant depuis le début de la réserve naturelle, depuis presque 30 ans dans les marais. Donc ça
s'appelle une débroussailleuse.
C'est une débroussailleuse naturelle écologique, hein, qui nous sert à entretenir les prairies. Mais bon, en fait, il faut dire...
Qui cohabite avec les autres. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. On utilise de plus en plus aussi les troupeaux des éleveurs locaux qui, de tout temps, ont fait pâturer leurs vaches dans le marais.
Oui.
Et puis aujourd'hui, les deux cohabitent dans la réserve naturelle.
D'accord. Préciser que si elle est là, cette vache, c'est parce qu'elle a plein de poils. Mais c'est pas ça qui pèse lourd, c'est qu'elle a une ossature assez légère. Donc elle peut se mouvoir plus facilement dans les terrains spongieux.
Oui, c'est une vache aussi qui est très rustique. C'est pour ça qu'au début de la réserve naturelle, on avait choisi cette race. C'est-à-dire qu'on pensait reconstituer un peu un écosystème un petit peu sauvage, avec les grands herbivores sauvages. Et on pensait pouvoir utiliser ces Highland Cattle comme les herbivores d'autrefois. Mais en fait, non, il ne faut quand même pas aller trop loin. C'est quand même des vaches domestiques et il faut quand même faire ça calmement.
Un sonneur à ventre jaune, là. Ah, un sonneur à ventre jaune. Ah, ça y est, là.
Il est petit, celui-là. Hein.
Petit, hein.
Ouais. Alors, mon pépère.
Voilà, on voit
le ventre. Oui.
Très coloré en jaune.
Ah, et ça y est, c'est ça. Faut imaginer aussi, après, les années 70 arrivent avec la PAC et le maïs vient aussi. Et là, évidemment, on draine et donc ce marais dégage vite.
Et oui, c'est-à-dire que juste après-guerre, le marais ne valait plus rien. La blache ne rapportait plus rien. Et puis, c'était aussi l'avènement du machinisme agricole, avec les tracteurs, qui n'étaient pas du tout adaptés pour le marais, parce que le sol est très spongieux, très mou. Et donc, le terrain ne valait plus rien. Et puis, avec comme tu dis, depuis la PAC, les années 60, là, il y avait des aides pour drainer les zones humides, labourer les anciennes prairies. C'est ce qui s'est passé dans le marais de Lavour, comme dans beaucoup de zones humides en France. Et avec pour résultat, aujourd'hui, un tiers du marais de Lavour qui est en culture de maïs, on va dire. Et c'est un petit peu pour contrer cette expansion de la maïsiculture que la réserve naturelle a été créée il y a maintenant 30 ans.
Ah, là, un beau frêne, un vieux.
Voilà, donc ça, c'est un frêne qui est quand même assez âgé et avec une énorme cavité, là, un énorme trou. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à expliquer, c'est que quand on a fait l'inventaire de la biodiversité des forêts, c'était il y a maintenant 4-5 ans à peu près, enfin ça a duré plusieurs années, et donc on s'est intéressé à la faune justement de ces cavités arboricoles. Et alors, dedans, on étudiait surtout les coléoptères, et aussi on avait une spécialiste des araignées. Et là, on a découvert ici une araignée qui normalement ne vit que dans les grottes, Meta menardi. Donc c'est une araignée, alors que là on est loin de toute grotte, donc c'était pas très connu qu'elle vivait comme ça dans les cavités arboricoles. Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'il y avait la mouche parasite de Meta menardi. Donc c'est une mouche qui ne pond ses œufs que sur cette araignée-là. Et alors, il faut s'imaginer que là, on a un petit volume, on a quoi, un quart de mètre cube, enfin, c'est tout petit. Et en fait, c'est un écosystème là-dedans. Il y a les araignées, il y a la mouche, il y a du terreau, il y a des larves aussi.
Pour que tout fonctionne.
Et ça vit en vase clos, en fait.
Disparition, apparition, et c'est vrai qu'un paysage, on le sait, hein, c'est toujours la résultante du climat, de la géographie, de la pédologie, donc autrement dit des sols, de la culture, et bien naturellement donc de l'action humaine, voilà. Et donc on va voir aussi tout le travail qui a été effectué sur ce marais de labour, qui avait été un peu rectifié, et ben voilà, oui, il y a tout un travail qui est effectué, on en parlera dans cette deuxième partie. Ah, très jolie chanson.
Elle est là-bas, mais je n'existe pas. n'existe pas. Parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. N'existe pas, parfois elle nous attire. Dans cette certitude, qu'elle m'aide comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
Toujours excellent compositeur, Arthur Maringot sur France Inter, dans C'est où de mon amour.
Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
C'est où de mon amour.
La salade verte, c'est le mystère.
Sur France Inter.
Oui, c'est le mystère. Je me dis que j'ai une chance inouïe de rencontrer un jour cet homme. Carmet, donc, à Bourgueil, son lieu qu'il adorait, évidemment. Depardieu aussi, son grand ami, donc, aimait beaucoup ce coin. On va revenir donc dans ce département de l'Ain, avec ce marais donc de Lavoux, avec des Molinis, des joyeux castors, des Blongios, et puis bah, l'être humain en appoint, en soutien, mais pas en manager du vivant comme il a adoré l'être depuis, on va dire, une bonne soixantaine d'années. Et alors, beaucoup d'amourettes hein, sont nées dans ce marais, donc lieu de rencontre, parce qu'on vivait dans ce marais, ce qui faisait dire localement « Ah, Lavour, toujours Lavour !» Eh oui, donc c'est comme ça. Et donc, bah, quand on vit là, peut-être qu'on ne se doutait pas de la richesse de ce marais. On va découvrir de nouveaux acteurs. Oh, bah là, Vincent Molinier, on a quand même de très très jolies traces, là, hein, dans le sol.
Oui, il y a du monde sur ce chantier. Tous les soirs, ils venaient nous voir pendant qu'on était partis. Donc, après le passage des pelleteuses, ouais. Sangliers, cerfs, castors et autres animaux ont largement circulé. On la voyait tous les matins, bah, ça avec les traces.
Alors, ce qui est intéressant avec vous, Vincent Molinier, parce que donc, vous appartenez à cette communauté de communes du Bugey Sud. Vous vous occupez de ce qu'on appelle, alors là c'est l'acronyme un peu barbare, c'est GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Alors justement, quel a été le travail, le coup de pouce que vous avez effectué donc dans ce marais de Lavour avec ces trois rivières, ou en tout cas il y en a deux là sur lesquelles vous avez travaillé?
C'est un projet qui date de longue date, hein. Les réflexions sur ce type de projet sur environ 2 km sont engagé depuis une dizaine d'années, beaucoup d'études préalables, beaucoup de négociations foncières, on est souvent sur le domaine privé, ouais. Et voilà, ça c'est la partie la plus dure, et la partie la plus plaisante quand tout se passe bien, c'est la mise en œuvre. Une fois que les budgets sont faits, une fois que tout le monde est à peu près d'accord, on se lance dans les travaux, et ici, sur ce secteur au droit du marais de Lavour, le séran a été largement aménagé, a subi un curage, pour le dernier majeur dans les années 60, les alluvions extraits ont servi à faire des routes, hein. C'était un enjeu à l'époque, mais une volonté aussi de contenir les risques d'inondation sur ce secteur. Et alors qu'on n'a pas d'habitation rive gauche, rive droite, c'est pas toujours le cas. Et là, on a surtout un grand marais, le marais de Lavour, et qui lui aime bien recevoir de l'eau régulièrement. Donc un des objectifs du projet était de, en tout cas en période d'inondation, de retrouver on va dire des inondations plus régulières et un peu plus longues sur cette zone de marais par l'expansion de crues du séran et de son affluent qui s'appelle les Rousses.
Alors une chose importante, parce que ça, on le voit, c'est-à-dire que maintenant, ça méandre. Et donc, il n'y a pas si longtemps, dans ces Rousses-là, c'était un canal, quoi. C'était une directissime quasiment de 2 km. Là.
C'est ça, oui, on le voit sur la carte IGN, hein, pour ceux qui connaissent le secteur, mais effectivement, le tracé est tout droit, très rectiligne, et sur des secteurs de plaine comme ça, où il n'y a pas de contraintes géologiques majeur. Naturellement, un cours d'eau ne peut pas être rectiligne sur 2 km, ça n'existe pas. Donc il y a eu des interventions humaines, passées et plus récentes. On n'a pas tout l'historique et on ne prétend pas recréer un cours d'eau naturel ou originel.
Quand on refabrique des méandres, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont donc les bienfaits, que l'on comprenne bien? C'est quoi refaire donc des méandres? Donc on refait des virages, donc on freine aussi donc la rivière.
Là, on avait sur le Séran même, on avait un chemin qui servait à l'utilisation ancienne du marais, qui servait encore un petit peu, mais qui se dégradait. Il y avait des érosions de berges permanentes, des tentatives pendant des années de stabiliser la berge. Et en fait, on l'a pris dans l'autre sens, c'est-à-dire le chemin n'était peut-être pas au bon endroit. On a supprimé le chemin, on a trouvé des alternatives, et on a permis à la rivière de retrouver un petit peu d'espace de liberté, ce qui permet de recréer des méandres plutôt naturels. Donc là, on entend la rivière. Donc on retrouve des écoulements un peu diversifiés, des vitesses d'écoulement qui vont être un peu rapides, par endroits plus calmes, un endroit profond, un endroit pas profond. Voilà, quelque chose de très hétérogène. Et puis la nature ayant horreur du vide, elle comble avec la faune, la flore qui va bien, tout ce système-là. On retrouve une biodiversité
un peu plus
stable, un peu plus riche. Tous les indicateurs qu'on a, hein, ils ont leurs limites aussi scientifiques, mais tous les indicateurs montraient quelque chose de plutôt moyen, voire mauvais. Pas forcément en qualité d'eau, mais on va dire la structure, le squelette de la rivière avait été bien attaqué. On verra dans 4 ou 5 ans la nature, les insectes, tous nos indicateurs, les poissons, on a pas mal d'indicateurs scientifiques qui nous servent à évaluer si on a priori bien travaillé. Maintenant, on compte sur la nature. Le cours d'eau est puissant, donc en tout cas l'océan. On y a donné un bon coup de pouce, et puis on va laisser faire les crues hivernales. On va surveiller aussi, suivre. Voilà, donc il y a beaucoup de suivi scientifique dans cette réserve, donc c'est l'avantage.
Alors ça va être aussi bon pour les hauteurs d'eau, là, que l'on comprenne bien.
Alors sur les hauteurs d'eau, c'est le paramètre le plus dur pour nous à Calais, parce qu'on est sur un secteur très plat. Ça a été fruit de fortes réflexions en amont du chantier et pendant le chantier. Le but étant de remonter plus ou moins la nappe, cas, c'est-à-dire pas forcément crue, parce que là on est très dépendant du Rhône, lui-même qui est plus en aval, donc qui bloque tout, hein. Sur une très grosse crue, on n'a pas changé grand-chose, c'était pas l'objectif. Par contre, sur les petites et moyennes crues, ou sur le jour où on est sur un débit comme aujourd'hui, ce qu'on appelle le module dans notre jargon, c'est-à-dire la moyenne annuelle, l'idée c'était que le niveau de l'eau soit plus haut, que la nappe soit plus haute, et que le marais qui est adjacent à l'océan retrouve une ligne, sa nappe souterraine remonte un petit peu mieux et soit plus humide. C'est la fonction même d'un marais, s'il n'y a pas d'eau, la zone humide, elle n'est pas là.
Pourquoi ils vous appelaient l'arénette?
On m'appelle l'arénette parce que, soi-disant, j'aurais avalé une grenouille vivante. Par défi, mais c'est pas vrai. Alors, le vieux m'appelait l'arénette parce que j'étais bon pour la pêche à la grenouille. J'avais raison, le vieux. J'aurais jamais dû quitter le marais. Je me sens bien ici.
Je vais rejoindre aussi Laura de Moussel, de cette réserve nationale dans laquelle nous sommes, parce que vous faites partie de ces femmes qui œuvraient pour...
Travaillent dans un marais.
Voilà, qui travaillent dans un marais. On a un peu l'impression que faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait cet endroit qui était une ligne droite. Bon, voilà, on y allait, on drainait merveilleusement. Et puis maintenant, on redonne de la liberté à la nature.
Tu vois qu'on peut faire des choses magnifiques avec des pelleteuses, en fait.
Hein. Eh ouais. Hein.
Le marais de Lavour, si tu veux, c'est l'un des derniers grands marais, quoi. Tous les autres ont été détruits. Le marais de Lavour, il faut imaginer ça comme une énorme éponge, si tu veux. Alors, vraiment, grosse éponge, c'est 22 millions de mètres cubes. Et cette eau qui est stockée là, c'est incroyablement précieux, parce que si elle n'était pas stockée là, on sait par des modélisations qu'elle irait inonder plus bas, à Lyon, par exemple, et qu'elle ferait beaucoup de dégâts matériels et humains aussi. Hein. On le dit peu, mais ces crues dévastatrices qu'on a, c'est aussi la résultante de la destruction systématique des zones humides et des marais. C'est les services écosystémiques, c'est-à-dire que si sur ces centaines d'hectares, on avait une zone commerciale, comme c'est le cas sur tous les marais du coin, il faudrait investir des millions en fait pour faire ce que le marais fait gratuitement, c'est-à-dire stocker l'eau, c'est-à-dire la nettoyer, c'est-à-dire stocker le carbone. Et ça a été évalué, ce montant. Et attention, tiens-toi bien, c'est quand même 150 000 euros par hectare. D'accord. Donc fois 2000 hectares ici.
Eh ben, on n'est pas volé là pour la boue, hein. Enfin, la boue, c'est plutôt une très bonne chose.
Je ne sais pas comment on va remonter. Regarde, on va s'enliser là.
Non.
C'est terrible.
Faut me donner la main, moi je ne sais pas.
Il y a plein de bouts de bois rongés juste là, il y a la trace dans le.
Ah bah, le castor, lui, j'ai l'impression. Le castor a l'air très content, effectivement. c'est un enjeu important sur le bassin versant du Séran et en général, c'est une espèce protégée. Ouais. Il nous a un peu contraint dans le dossier réglementaire. Hein. Le castor, il fait des huttes, il fait des barrages, c'est une espèce protégée, donc c'est son habitat est protégé. Et il a fallu prendre en compte tout ça, c'est pas évident. On a des mesures entre guillemets compensatoires. Et on voit qu'aujourd'hui, bah là, ça fait quinzaine de jours que les pelleteuses sont plus là. Et bah, il a déjà recolonisé, puisque les quelques arbres qu'on a laissés en travers ou coupés, bah, il est venu manger les écorces. Donc ça a l'air de lui plaire ce qu'on est en train de lui présenter comme menu.
Viens voir, on voit la trace de sa queue dans l'argile. Et il a laissé plein de petits morceaux de bois à ronger.
Ah
donc
ouais.
Ça, d'un point de vue pédagogie, le castor, c'est merveilleux parce que nous, on a beaucoup de points communs avec le castor. Hein. Il aménage beaucoup son territoire, oui. Il laisse des traces partout, il travaille, il vit en famille, il se tient debout. Donc en fait, c'est une espèce qui est tout à fait passionnante et qui, effectivement, a l'air d'être bien content des travaux de restauration qui ont été faits ici.
Ah, c'est top, là.
Bon, je ne vais pas te demander ce que vous voyez évoluer, mais pourquoi vous vous sentez bien ici, dans ce lieu, dans ce marais de Lavour ?
Alors écoute, je ne me sens pas toujours bien, hein, parce que les professionnels de la nature, en ce moment, ils ne se sentent pas très bien toujours, hein, parce qu'ils sont au premier banc, si tu veux, quand même, de l'effondrement du vivant, hein, ouais. Qu'on constate, qui est très palpable pour nous, ce qui n'est pas le cas forcément de plein de gens. Moi, par exemple, je compte les grenouilles, figure-toi. Et je compte une espèce qui s'appelle la rainette verte, dans le cadre de protocoles de suivi des amphibiens chaque année. Et depuis 2015, eh ben, il n'y en a plus, quoi. Tu vois, j'en ai compté 100, 80, 50, 30, et après, plus aucune. Et c'est aussi, par moments, désespérant. Enfin, c'est un sentiment qui est profondément difficile à gérer, de tristesse, tu vois, il y a aussi ça. Mais bon, moi je viens travailler dans ce marais que je trouve magnifique, hein, qui est subtilement fleuri, qui est habité de couleuvres et de crapauds, qui sont à mon avis les animaux les plus magnifiques du monde,
oui.
Bien sûr. Et on ne travaille pas seul en fait, hein, on n'est pas là seul dans notre réserve, on fait beaucoup de sensibilisation, donc on emmène des enfants, et on essaye de les connecter, de les lier de façon sensible, émotionnelle à ce milieu. Et ça, c'est une aventure aussi qui est passionnante. C'est un très bon outil.
Pour qu'ils ne deviennent pas destructeurs, à leur tour, on va dire, comme les anciens ont pu l'être.
Donc, je me vois bien un peu ambassadrice des crapauds auprès des 6-12 ans. Ouais. Et c'est très, très, très beau métier.
Ah, merci à tous et puis aussi donc un merci au passage à Stéphane Christophe de la communauté de communes du Bugey Sud pour son aide amicale et précieuse et aussi à ces gros chiens car quand ils dorment sur vous, vous n'avez pas besoin de couette, c'est aussi un avantage. On va saluer le travail aussi donc de financement de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse donc par rapport à tous ces travaux que vous avez entendus, c'est aussi le rôle de financer cela mais évidemment faut le dire. La semaine prochaine, allez on change de lieu dans les Pyrénées, on va rencontrer qui ? Oh petit sujet un peu polémique évidemment parce qu'on va parler des ours avec Jean-Jacques Camara. Donc, les ours pyrénéens. Merci à Thierry Dupin d'avoir choisi les disques, à Mathias Saléon, à Camille Blanès, notre collaboratrice, à Xavier Pessugia. On se retrouve donc la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.